Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors aujourd'hui, nous avons dans ces studios de la rue de la Salie, à Toulouse, une poète que nous allons saluer et honorer comme il se doit. Il s'agit de Sabine Ossenach. Sabine Ossenach, bonjour. Merci beaucoup d'être venue à Radio Occitanie pour nous parler de la poésie, la vôtre bien sûr, puisque vous êtes auteur de livres de poèmes, mais également, je le sais, nous parler de, des poèmes que vous avez, pour lesquels vous avez eu une influence, qui vous ont influencé, et des poètes aussi, femmes, de notre chère Occitanie. Alors, Sabine Ossenach, on va vous présenter. Bon, vous êtes connue dans le paysage poétique toulousain hein, depuis longtemps. Moi, je vous ai connue, entre autres, au Cercle de Poésie, qui a animé à l'époque Philippe d'Azébrun, Cercle de Poésie de l'Institut d'études catholiques de Toulouse. Et vous avez donc été l'auteur de plusieurs ouvrages de poésie dont nous allons parler. Dans votre vie, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce que vous êtes la fille d'un Occitan. D'ailleurs, le nom Ossenach est par essence hein, vraiment un nom purement Occitan. Hein. Et également la fille, donc, vous avez une mère qui est allemande. Voilà. Et donc, il y a là un beau métissage qui nous intéresse beaucoup, puisque, finalement, les métissages sont source d'enrichissement. Et nous allons voir comment vous avez effectivement profité de ce métissage dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois, bien entendu, dans le sens de la langue allemande, mais également dans la passion que vous gardez toujours pour notre Occitanie et donc pour la culture occitane. Voilà. Et vous avez réuni les deux, en définitive, rassemblé donc ce qui était par, hein, comme Osiris et Osis. Et ça donne effectivement quelque chose qui est toujours quelque chose de terriblement enrichissant et fertile. Alors, vous êtes professeur d'allemand.
Retraité.
Vous avez été professeur d'allemand jusqu'à peu, il y a peu, puisque vous avez pris votre retraite il y a quelques années, à peine. Hein. Un an. Donc vraiment une jeune retraitée. Donc professeur d'allemand, donc agrégé d'allemand, donc c'est-à-dire véritablement une grande connaissance donc de la langue et de la culture allemande. Deux. Vous avez été en poste dans différentes villes et vous êtes revenu après avoir été, je crois, dans la région parisienne. Vous avez été, je crois.
Alors plutôt à Clermont-Ferrand, 12 ans, oui. À Bordeaux, dans le Bordelais, et puis à Bruxelles, et j'ai enseigné à Lille.
Pardon.
Et ensuite dans le Gers, et je suis revenue à Toulouse en 2013. Et d'abord, bonjour.
Oui, bonjour Sabine, pardon. Bonjour, et
je ne vous avais pas salué, merci.
Bonjour. Et donc, un beau périple quand même, hein, la Belgique.
Oui, magnifique, très enrichissant aussi, mon troisième pays.
Oui, ah oui. La Belgique, le Gers, donc
quatrième pays.
Oui. Donc là, des cultures vraiment très très différentes, mais ô combien riches l'une et l'autre. Hein. Et finir donc à Toulouse. Alors, vous écrivez depuis peu, en définitive, par rapport. Vous êtes mis à l'écriture. Alors, qu'est-ce qui vous a interpellé? Pour aller jusqu'à écrire. Parce que écrire, souvent, est avant tout une nécessité. On éprouve cette nécessité. Et cette nécessité, apparemment, elle est née assez tard chez vous, non ?
Elle est née très tôt.
Ah.
Mais comme je l'ai longuement expliqué dans la, dans la conférence que j'ai donnée à Abraham à l'occasion de la Journée internationale des femmes le 7 mars, en fait, j'ai eu la vocation très tôt. Toute petite, je voulais écrire, je me voyais vraiment... c'était vraiment absolument certain que je deviendrais écrivaine. Pareil, quand j'étais adolescente, je voulais faire des études de journalisme et voilà. Et puis la vie, finalement, est passée par là avec des obligations diverses, le travail, des mariages, des divorces, des enfants. D'accord. Et vraiment, c'est plutôt une vie d'écriture en travail. Alors j'écrivais toujours. J'écrivais des dissertations en passant les concours, j'écrivais des journaux intimes, j'écrivais beaucoup de lettres. Mais je n'arrivais pas à trouver le temps de l'écriture réelle en fait.
Alors ce que vous dites confirme absolument cette sentence, écrire n'est rien, trouver l'occasion d'écrire est tout.
Voilà. Ah. Pour moi c'est arrivé en 2008.
C'est avoir, c'est avoir la disponibilité de l'écriture. Écrire n'est rien, mais être disponible pour l'écriture, c'est très important.
Voilà, se donner la disponibilité.
C'est se donner cette disponibilité. Et c'est vrai, j'ai lu souvent ces phrases-là de gens qui disaient « Bon, mais moi, c'est écrire, ça va, mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'y mettre. » Et d'ailleurs, nous avons un poète ici à Toulouse, Casimir Pat, qui, pendant longtemps, a été un peu dans le silence, tout simplement parce que ses occupations professionnelles l'empêchaient véritablement d'avoir cette concentration et cette disponibilité, mais aussi cette force, parce qu'il faut quand même de la force pour faire abstraction du reste, parce qu'il y a quelque chose dans l'écriture, il faut vraiment, c'est un moment à soi où il faut pouvoir éliminer un peu le reste. Donc écrire n'est rien, trouver la force d'écrire, c'est tout. Voilà.
Oui, puis s'autoriser.
Oui, oui.
Se dire que finalement, pourquoi pas, pourquoi ne pas le faire, puisque c'est ce qu'on a toujours voulu faire. Et je crois que je ne me suis pas autorisée, avant une certaine période, cette liberté. C'est une liberté,
oui.
En fait.
Oui, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire, les nécessités triviales l'emportent sur, en définitive, les nécessités spirituelles. Hein. Il faut... C'est absolument ça, quoi. Voilà. Alors, on va, si vous le voulez bien, on va écouter votre voix dans le poème. Alors, vous avez commencé par publier un recueil de poèmes. Comment ça s'est passé? Comment votre...
Alors, en fait, j'ai commencé à écrire... sur Internet, sur un forum de poésie. Vraiment, j'ai eu ce petit déclic est venu sur un forum de poésie où je me suis inscrite après avoir lu un poème très très fort qui m'a vraiment interpellée. Et donc, c'est venu comme ça. Ensuite, je n'ai pas écrit que de la poésie. J'ai écrit deux romans. J'ai été blogueuse. J'ai écrit un essai qui a été publié en 2022 sur une poétesse qui s'appelle Rose Auslander, que je traduis aussi.
Oui, on va en parler.
Voilà. Et puis la poésie, c'est venu petit à petit. Et donc, j'ai été publiée beaucoup en revue et un petit peu en auto-édition. Et donc, mon prochain recueil qui sortira vraiment chez un véritable éditeur, ce sera à la rentrée littéraire en bilingue français-occitan aux éditions Réclames.
Oui, ah oui, c'est
voilà.
Amusant.
Parce on est vraiment au cœur de Radio Occitania et de l'Occitanie.
Absolument. Oui, dans la culture, c'est un éditeur de culture occitane.
Voilà, et puis pour revenir à l'Allemagne, je suis aussi en thèse, donc je fais un doctorat autour de trois créatrices, une peintre, une sculptrice et une designeuse et bijoux. Oui, elle a aussi des bijoux, donc d'une petite colonie d'artistes allemandes du tournant entre le 19e et le 20e siècle. Et donc, je fais ce doctorat en recherche-création, c'est-à-dire que j'intègre ma propre écriture et mes propres recherches littéraires au volet académique. Et donc là, j'écris aussi, je poétise énormément de tableaux, de sculptures, de lettres, de photos. Donc, ce sera intégré dans le corps de la thèse. J'écris aussi une pièce de théâtre dont j'ai présenté un extrait récemment sur la scène de la fabrique à l'université du T2J, au Mirail. Et donc cette pièce paraîtra aussi en version seule, voilà, on pourra la trouver aussi. Et donc là, ce sera en français et en allemand. Donc on est vraiment dans les deux parties.
Est-ce qu'elle sera rejouée,
Alors elle sera jouée le jour de ma soutenance de thèse, en français, avec des véritables comédiennes. J'espère que ce sera dans un théâtre toulousain, donc j'ai commencé à prendre des contacts, il y a des pistes.
Bien, on en parlera,
voilà.
Ça peut revenir.
Tout à fait, ça s'appellera Becoming, enfin ça s'appelle déjà Becoming Paola, puisque je travaille autour de l'artiste qui est très connue maintenant, Paola Modersohn-Becker. Mais surtout, je travaille sur l'invisibilité muséale et artistique des femmes, puisque sur ces trois créatrices, deux sont encore dans l'ombre.
Oui.
Voilà, donc c'est un peu la piste de mon travail, l'émancipation par l'art et le fait que ces artistes femmes ont du mal encore à exister.
Oui. Oui, on commence maintenant à recenser un petit peu tous ces génies, parce que bon, le mot n'est pas trop fort, qui ont été passés sous l'ombre. C'est très curieux d'ailleurs.
Ah, mais les chiffres sont épouvantables. Au Louvre, statistiquement, il y a un tout petit pourcentage de femmes artistes, et c'est pareil partout, dans tous les pays. Alors que cette créatrice, Paola Modersohn-Becker, a été la première femme au monde à avoir un musée, son musée. Mais elle commence juste, depuis une dizaine d'années, à émerger à l'international.
Oui. Alors, il y a Camille Claudel, par exemple, le Cornéadé ici à Toulouse, sort une pièce depuis quelque temps, produit une pièce justement sur Camille Claudel, qui va dans ce sens.
C'est un thème qu'on travaille actuellement.
Voilà, la réhabilitation vraiment des génies féminins qui ont marqué l'art dans toutes les époques, en définitive. Et toutes les époques ont eu leur artiste femme. Voilà. Mais qui était mise sous le boisseau, vraiment. C'est très curieux.
Tout à fait. Ouais, c'est la même chose dans mes recherches autour du Tarn, parce que je travaille dans ce livre qui paraîtra sur les racines de mon papa, les racines paysannes. Et je me suis rendu compte, j'avais un gros dictionnaire des Tarnais célèbres, il y avait moins de 10 femmes dedans.
Ah oui,
voilà. Alors que certaines d'entre elles sont connues, comme la sculptrice Lucie Bougnol, par exemple.
Oui. Par contre, en poésie actuellement, c'est pas vrai du tout.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de femmes qui sont publiés. Et je crois que, bon, maintenant, on est dans une période où tout ça, quand même, est derrière nous, malgré tout.
En littérature,
En littérature, en poésie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications de femmes, vraiment, et d'excellentes, excellentes publications.
Tout à fait.
Et qui changent, d'ailleurs, complètement aussi la nature un peu de l'essence de la poésie contemporaine, je crois, Alors, on va écouter donc Sabine Ossenac dans ses œuvres.
Écoutez, merci de me donner la parole. Donc, j'ai classé un petit peu mes textes par ordre chronologique. Et au début, je pratiquais encore beaucoup la rime. Voilà. Et peu à peu, je pense que ma poésie s'est désengluée. Donc, les poèmes des débuts sont encore parfois rimés, parfois même ce sont des sonnets. Et on va dire que l'écriture s'est peut-être un petit peu libérée au fil des années. Donc là, je vous lis un poème plutôt de départ qui s'appelle « Les ailes du désir ». Mon ange me regarde, pétrifié de terreur. Il me voit, si englué d'erreur, si vide, désespéré, hagarde. Il erre autour de moi, me frôle, pose doucement, avec infinie délicatesse, ses ailes vierges sur mes froids. Tente de m'insuffler tendresse, me sourit, invisible, transparent, grandiose dans sa mansuétude, il est pur comme âme d'enfant, me regarde dormir en inquiétude, assis près des moi, aile déployée, en corolle absolue, bosselée de larmes anciennes, perlée de franges, arc-en-ciel, il me veille, mon ange. Il s'étend de moi. Un jour, il descendra et moi j'irai vers lui, éthéré, libre. Je serai plume lavée des fanges, enfin moi, et lui goûtera plaisirs et livres, sans doute un peu perdu, sans rôle à jouer. Il posera ses ailes du désir sur trapéziste folle, ou dans Berlin coloré se jouera des oboles de passants le prenant pour d'asile échappé. Et moi je planerai enfin en bibliothèque, parlerai mille langues, oublierai hypothèque, murmurerai pardon, tendresse et vérité, en oreille d'inconnu enfin pour un temps apaisé. Je serai Bruno Ganz et il sera entier, mon ange rilkéen, si pur et éthéré, à moins que par miracle ou par pur hasard, un sexe lui soit né alors qu'elle tint amarre. Car si cet ange est homme, moi je deviendrai bête, oubliant consigne et paradis perdu. Il est à parier que je n'en ferai qu'à ma tête, et que de Dieu lui-même, je deviendrai la bru. Alors ce poème, c'est un peu une allusion, c'est une forte allusion déjà aux anges de Rilke, et puis au film Les ailes du désir de Wim Wenders.
Oui, c'est une volonté. Voilà.
Vous avez peut-être reconnu le périple berlinois de cet ange qui, est dans, qui murmure à l'oreille des gens dans une grande bibliothèque et qui arrive à entendre...
Oui, très belle métaphore.
Oui, hein, très voilà, métaphore. Sur l'écoute, oui. Sur oui. La oui. Bienveillance.
Oui.
Voilà,
Le beau texte. Alors, on voit là que le langage, c'est un langage quand même qui est assez fluide, mais assez long quand même. On est loin de ces poèmes maintenant très raccourcis.
C'est ça. Voilà. C'était encore... Oui. Vrai que, c'est aussi pour ça que je... jusqu'à ce que je change finalement de façon d'écrire, je n'ai pas trouvé vraiment d'éditeur, puisque ça, ce n'est pas très à la mode, on va dire, d'écrire des longs poèmes
oui,
comme ça.
Oui, en même temps, le narratif, par exemple, le narratif pour la radio, ça va très bien.
Oui.
Ça va beaucoup mieux d'ailleurs que les AIQ. Hein.
Tout à fait.
Oui. Et en même temps, il y a aussi, parce que là, il y a un récit dans ce poème. On suit quelque chose.
Voilà, il y a des métaphores, des images. Oui. Voilà. Mais je me suis rendu compte que j'aimais tout. Donc, tout comme en musique, je peux écouter Bach ou de la variété française ou du rock and roll ou du blues. Mais j'aime bien écrire dans tous les styles. Donc, j'apprécie aussi beaucoup le minimalisme de la poésie très contemporaine. Voilà.
Oui. L'un ne doit pas exclure
tout
l'autre.
À fait.
Et d'ailleurs, il y a des poèmes que, justement, j'ai travaillé cette semaine sur un poète qui s'appelle Stéphane Amiot, qui s'est renouvelé dans le style, qui se renouvelle constamment. Et qui étonne d'ailleurs ses propres éditeurs, etc., de trouver. Voilà. Et il vient de faire apparaître un livre qui s'appelle Chimérie, qui est un livre sur les monstres, la monstruosité, c'est très, très curieux, mais dans un style qu'il n'avait jamais eu avant, un style très alerte, très, très trivial, très étonnant, et c'est sa façon aussi de se renouveler en permanence, il n'y a pas de contradiction. Je crois que maintenant on est dans une période, peut-être est-ce un effet aussi de la vitesse de notre période, le fait que les choses passent vite, qu'il y en a beaucoup, tout est démultiplié, qui fait que, les poètes qui avant étaient repérables justement à un style qui est figé un petit peu, sont en train, comme Stéphane Amiot, de pouvoir se renouveler, y compris dans le style.
Oui, c'est très juste.
Ce qui n'est pas facile, parce que ça peut... Bon, s'engoncer dans un style est beaucoup plus, effectivement, confortable que de prendre le risque de changer la manière d'écrire, parce que la manière d'écrire, c'est aussi un peu la manière de penser. Hein. Donc, il y a une mise en danger, là, quelque part, chaque fois que...
Tout à fait. Oui. On le voit aussi pour les romancières, les romanciers.
Voilà, oui. On va continuer.
D'accord. On a quelque chose de très rimé qui s'appelle Clé des champs, un poème des débuts aussi. Je suis un champ de tournesol, grisé de vent et de soleil, de ma cocagne belle au bol et butinée par mille abeilles. Je suis un grand champ de lavande, odorante, bruissante, pastelière, de bleu Provence toute offrande et des parfums vrais dentelières. Je suis un champ de coquelicots, les peintres m'ont dévoré du regard. Dévale printemps en pourpres accros, vermeil en feu, je pique un phare. Je suis un champ de blé en herbe, les amoureux se cachent en moi, puis on me lit en lourde gerbe, le pain est blond de ses émois. Je suis un vrai champ de houblon, qui bruisse bon la bière blonde, les Flandres chantent à mes flonflons, et grâce à moi, la terre est ronde.
Oui, bon, il y a beaucoup d'humour aussi.
Hein. Voilà, je continue.
Oui.
Celle qui dit: j'aurais aimé pétrir une argile torride, et de mes mains déesses, créées de terres arides, formes, femmes, fantasmes modelés tel destin, j'aurais été Camille aux côtés de Rodin. J'aurais aimé de mes yeux parcourir la planète, en devenir le chantre des gens et des bêtes, d'un objectif rageur, capturer injustice, ou simplement merveille en beauté de solstice. J'aurais aimé devenir une toile infinie où mille couleurs d'intense seraient devenues vie, tournesols ou marines, or flamand et sanguine, ma peinture au soleil sentirait mandarine. J'aurais aimé danser en tutu de Ptira, gracieuse ballerine, merveilleuse Coppelia. Mon lac des cygnes aurait couleur d'immense, Isadora Duncan serait entrée en transe. J'aurais aimé vibrer au clavier tempéré de cent accords divins de maîtres inachevés, devenir concertiste adulée, une artiste, mes mains si assurées se feraient cantatrice. Mais je ne sais qu'écrire, balbutier, radoter, raconter, murmurer, ravager de pensées. Les mots me bouleversent, l'émotion me décrit. Au clair de toute lune, je suis celle qui dit.
C'est un autoportrait.
Oui, hein, totalement. Parce que je ne sais pas très bien danser, ni jouer du piano, ni peindre. Voilà. Et le poème suivant, je l'ai en deux langues. Si vous voulez, on peut commencer par le lire en allemand après en français. Alors, c'est... j'ai commencé à écrire en allemand un peu après avoir écrit en français. Et d'abord de façon indépendante. J'ai remporté aussi des prix littéraires en Allemagne. Et puis, je me suis mise à m'auto-traduire, soit dans un sens, soit dans l'autre, ce que je fais aussi maintenant pour l'occitan. Et... les vers allemands étaient d'abord plus libres que les vers français. Je ne faisais pas des alexandrins. Je me suis rendu compte que je cherchais encore la musicalité de la langue, mais c'était parfois un peu plus minimaliste que ma poésie française, encore un peu ampoulée. C'était amusant à observer aussi. Voilà. Et je réfléchis beaucoup là-dessus, puisque dans le cadre de la thèse, on doit aussi analyser notre création. Oui. Donc, ce n'est pas narcissique, c'est juste que j'ai été obligée ces derniers mois à faire cette auto-réflexion.
Mais ce que vous dites est étonnant, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait une sorte de, quand même de différence dans la façon dont le poème est créé dans les deux langues. Et d'après ce que j'ai compris, peut-être la langue allemande resserrerait un peu plus le langage.
C'est ça. Avec moins de rapport peut-être à un carcan littéraire comme par exemple le sonnet.
Oui, d'accord. Voilà.
Ce qui est paradoxal, puisque l'allemand peut sembler être une langue plus lourde, plus architecturée.
Oui, avec des déclinaisons, etc. Mm-hmm. C'est ce qui m'a interpellé tout de suite. Oui.
Voilà, et là, donc...
Et vous avez eu des prix, donc, en Allemagne.
Voilà, tout à fait. Oui. Puisque j'écris aussi de la poésie, des nouvelles en allemand.
D'accord. On écoute.
Alors, en allemand d'abord, ich liebe dich. Ich sage es in der dünnen Luft des Morgens. Ich sage es vor dem verwaschenen Regenbogen. Ich sage es vor dem verkalkten Glück. Ich sage es in der sternenstillen Nacht. Ich sage es auch, wenn niemand mir zuhört. Ich sage es dem Fremden, der so einsam am Lebensgitter zittert. Ich sage es meinen Kindern jeden Morgen beim Sonnengruß. Ich sage es meinen Freunden, den Urigen, den Neuen, den Ewigen. Ich sage es der Sonnenblume und der Tanne, der Turteltaube und den Sorgen. Ich erwarte nicht, dass der Wind es mir als Echo zurückbringt. Ich sage es wie eine Chiffre, ich sage es wie ein Geschenk, ich sage es wie eine Gnade. Ich sage es auch, wenn man mich lächerlich und skurril findet. Ich sage es wie ein Frühling gegen den ewigen Winter der Welt. Ich sage es wie eine Sonne, ich sage es wie eine Wonne. Ich sage es, weil es für mich ein Alpha und Omega des Überlebens bedeutet. Ich liebe dich. Et en français, quand même, pour que vous compreniez. Vous n'êtes pas germaniste, Christian. Je le dis dans l'air fragile des aubes. Je le dis à l'arc-en-ciel décoloré. Je le dis devant le bonheur calcifié. Je le dis dans la nuit, aux étoiles muettes. Je le dis au silence. Je le dis à l'inconnu qui tremble au portail rouillé de sa vie. Je le dis à mes enfants chaque matin en faisant ma salutation au soleil. Je le dis à mes amis, les intimes, les nouveaux, les éternels. Je le dis au tournesol et au sapin, à la tourterelle et aux ennuis. Je n'attends pas que le vent m'en rapporte l'écho. Je le dis comme un chiffre. Je le dis comme un cadeau. Je le dis comme une grâce. Je le dis même si l'on me trouve ridicule. Je le dis comme un printemps contre l'éternel hiver des mondes. Je le dis comme un soleil, je le dis comme une merveille, je le dis comme l'alpha et l'oméga de ma survie. Je t'aime. Voilà, le chiffre au sens du chiffre célanien, le chiffre, le mot secret, le mot du passage, le chiffre des mathématiques.
D'accord, Paul Celan.
Voilà, Paul Celan qui a beaucoup compté pour moi.
Ah oui, alors ça m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais bien faire une émission sur Paul Celan, hein, qui est quand même un des grands poètes du XXe siècle.
Tout à fait.
Et qui a tellement souffert de ne pas être compris, surtout en Allemagne. Hein. Mm-hmm. Il n'a pas été compris quand il... Ça a été terrible.
Terrible.
Cette incompréhension. Et oui, je crois qu'il faut effectivement reprendre la mémoire de Paul Celan.
Voilà, c'est un personnage extraordinaire, un grand traducteur aussi, qui a fait une œuvre monumentale, magnifique, qui est sans cesse retraduite, et donc qui était originaire de Bukovine, donc cette région qui est à présent en Ukraine, et qui a connu, donc qui était un ami de la poétesse sur laquelle je travaille, Rosa Auslander. Alors, on l'aura même traité une idylle, mais bon, c'était des rumeurs.
Dommage.
Oui, c'est un petit écart d'âge aussi. Oui. Mais ils se sont rencontrés, on en reparlera éventuellement, dans les ruines du ghetto de Tchernovitz. Et ils ont assisté à des lectures de poèmes ensemble, avant de se rejoindre après la guerre.
Donc nous prenons rendez-vous pour une émission sur Paul Celan.
Avec grand plaisir. Oui. Je crois qu'il y a à l'université des collègues germanistes qui seraient ravis de venir en parler aussi. Je pense par exemple à Nadia Lapchin, qui est spécialiste de poésie. Je pense que vous avez des gens intéressants à inviter. Jacques Lajarige qui...
On continue.
Est-ce que je reste dans le chronologique? Oui.
Oui, on va...
D'accord.
Un petit peu un autre texte, et après on parlera peut-être des influences.
Ok. Au 14 juillet, ton histoire est la mienne. Comme elle me semble douce, ma belle République, celle où voici longtemps, bien des vents se calmèrent, quand de nos soleils fous, aux cent plaines nordiques, Robespierre et Danton, d'ennemis, furent frères. Comme elle me semble belle, ma France des flonflons, celle qui sait danser sur mille accordéons, lorsque de nos villages, aux confins de Paname, un seul peuple festoie de bon cœur et d'une âme. Comme elle me semble forte, ma belle aux artifices, celle où l'on célèbre la Bastille tombée, au rythme des canons et d'idées malmenées, quand chaque bourgade fait de Versailles office. Comme j'aime observer les étoiles exploser en ciel bas de Bourgogne ou Clément en Olonne, lorsque rient les enfants à la lune étonnée par tout ce déploiement de l'île à ma Gascogne. Comme j'aime drapeau et me sens cocardière, quand des Champs-Élysées à notre canebière, métissage d'encens font résonner campagne et que coule pastis, pinot noir et champagne. Nul ne m'enlèvera ma ferveur citoyenne, je me sens Marianne et te salue, ma France. Accorde-moi encore cette dernière danse, au 14 juillet, ton histoire est la mienne.
Waouh! Bon.
Petite allusion à Aragon.
Oui. Voilà. Oui. Mais ça fait plaisir aussi de voir à la fois. Ce sentiment d'universalité, d'universalisme qu'expriment vos poèmes et qui est l'apanage de la poésie. Et en même temps, de pouvoir dire « j'habite un pays et c'est mon pays et je l'aime ». Et je crois qu'actuellement, c'est important ça, et d'écouter un poème comme ça, par des gens de votre génération, c'est réconfortant. C'est réconfortant. Parce que il y a cet engouement, évidemment, pour le cosmopolitisme tous azimuts, mais le cosmopolitisme tous azimuts, ça ne veut pas dire que tout est égal dans tout lieu. Et chaque lieu a son âme, sa particularité. Et on doit l'aimer en tant que lieu particulier. Et on ne vit pas de la même façon à Béziers qu'à Lille. Voilà, il y a deux. Ce n'est pas qu'il y ait une supériorité de l'un sur l'autre, mais il y a une particularité. Et donc la France est aussi un particularisme. particulier et mortant, certainement. Bon, et c'est bien qu'il y ait des gens qui disent, oui, c'est mon pays, je l'aime.
Ben oui, c'est des ricochets. Moi, voilà. J'aime mon berceau.
Ça n'empêche pas de pouvoir être très attentive, comme vous l'êtes, à d'autres lieux, loin de là, et même de s'imprégner de ces lieux de façon passionnée. Mais en disant, moi, c'est mon pays et j'aime ce pays parce que c'est la France.
Voilà, j'aime même deux pays, et puis l'Europe, et puis ma région, et puis la région de ma maman en Allemagne. Mais je crois qu'effectivement, je suis tout à fait fière d'être française et fière d'être d'origine allemande et très fière d'être occitane aussi.
Voilà.
Mais le 14 juillet, c'est l'occasion justement de rassembler tout ça. Oui. De faire la fête ensemble. Je le passe, hélas, souvent en Allemagne, je ne sais pas pourquoi ces dernières années. C'est assez frustrant, en fait, parce que, d'être loin de la France au 14 juillet. Mais bon, c'est comme ça.
Oui. Voilà. On va parler de vos influences.
Oui.
Donc, d'abord, il y a cette poétesse dont vous parlez, Rosa. Voilà. Quelques mots sur elle.
Alors oui, Rose.
Une publication là-dessus. Hein.
Alors oui, un essai qui est paru aux éditions du Bordelon en 2022. Rose Ausländer, une grande voix juive de la Bukovine, donc cette région d'où était originaire aussi Paul Celan. En fait, c'est une poétesse qui compte énormément dans le paysage littéraire allemand. Elle a vécu très longtemps. On va fêter là au mois de mai le 125e anniversaire de sa naissance. Elle a traversé, en fait, elle était née en 1901, elle a traversé le XXe siècle, donc en étant née dans l'ancien empire austro-hongrois, donc dans un shtetl, un peu plus grand qu'un shtetl, je dis n'importe quoi, que Czernowitz, c'était vraiment une ville tout à fait cosmopolite où se croisaient beaucoup d'influences, et elle, donc, est née dans une famille juive, mais avec une grande ouverture culturelle vers à la fois la langue allemande, vers l'italien qu'elle aura appris à l'école. Et donc, pendant la guerre, elle a d'abord commencé par se cacher dans le ghetto. Avant, elle avait fait un premier exil aux États-Unis. Elle était rentrée pour s'occuper de sa mère. Puis, elle a pu se sauver du ghetto et repartir aux États-Unis. Elle avait déjà commencé à écrire et à faire quelques publications. Elle a eu une période assez longue de silence complet. Elle n'arrivait vraiment plus à écrire dans ce qu'elle appelait la langue des bourreaux, puisqu'elle avait écrit en allemand.
Comme c'est long, hein.
Voilà. Puis elle a eu un petit déclic grâce à une amie américaine qui l'a amenée vers une écriture anglaise. Et elle est rentrée, en fait, en Europe. Alors, elle a fait plusieurs tentatives. Elle a essayé Vienne, mais elle trouvait qu'il y avait encore trop de relents national-socialistes, hein, même après la guerre. Elle a beaucoup voyagé, puis elle est allée aussi à Paris, enfin elle a vraiment fait un peu le tour de l'Europe. Puis elle s'est retirée à Düsseldorf, donc en Rhénanie, dans la ville qui est voisine de la ville de ma mère, qui est la ville de Duisbourg. Et elle a vécu ensuite les dernières années de sa vie grabataire, dans une maison de retraite juive, tout en continuant à écrire. Alors elle a écrit des milliers de poèmes, elle a été découverte par un monsieur qui s'appelle Helmut Braun, qui l'a ensuite édité. Et elle est très intéressante parce qu'elle a une poésie très limpide qui peut être lue et comprise par des écoliers. Donc elle est beaucoup apprise dans les écoles. Elle est dans le psautier luthérien, par exemple. On la chante le dimanche chez les protestants. Mais en fait, quand on lit entre les lignes, elle a beaucoup thématisé la Shoah, l'exil, donc des thèmes beaucoup plus lourds. Et elle est peu connue, elle était pas très connue en France, hormis dans les cercles de germanistes. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à elle, que je suis partie sur ses traces. Donc là, je la traduis aussi actuellement. Et une autre traduction vient de sortir. Donc on va dire qu'elle commence à se francophiliser un petit peu, alors qu'à l'international, elle est déjà vraiment très, très, très connue.
Oui. Je me souviens d'en avoir parlé en 2022, effectivement, quand d'ailleurs ça doit être encore accessible, puisque sur le site lespoètes.site, quand le livre est paru, maintenant, on avait parlé d'ici, ici on en a parlé.
Oui. Voilà, et alors, c'est vrai qu'elle a une influence sur moi par rapport à cette écriture qu'elle a, qui est très limpide, très simpliste, très éthérée, en fait. Et je pense que, en la lisant, j'ai pu aussi, moi, m'extraire de certaines lourdeurs, peut-être, que j'avais encore.
Oui.
Voilà, elle a peut-être affiné ma perception lyrique.
D'accord. On va l'écouter, peut-être ? Rosa, là. C'est bien, non ?
Oui. Juste que je trouve le fichier.
Ça peut amener le livre, pardon.
Mon rossignol. Ma mère fut un jour une biche, les yeux mordorés, la grâce lui était restée de sa vie de biche. Elle se tenait là, mi-ange, mi-humaine, au milieu était ma mère. Lorsque je lui demandais ce qu'elle aurait aimé devenir, elle répondait « un rossignol ». Maintenant, elle est un rossignol, nuit après nuit je l'entends dans le jardin, dans mon rêve sans sommeil. Elle chante la Sion des ancêtres, elle chante la vieille Autriche, elle chante les monts et les bois de hêtre de la Bucovine. Ce sont des berceuses que nuit après nuit me chante mon rossignol dans le jardin de mon rêve sans sommeil. Donc avec la nostalgie de la, oui. du pays natal perdu, de sa mère qui est morte hélas quand elle était aux États-Unis. Et puis bon, Sion bien sûr, puisque l'origine juive, la judéité est très importante. Voilà. Oui. On n'a peut-être pas le temps que je le lise en allemand. Oui. Hein.
Ça fait effectivement, il y a là tout un mélange quand même qui est lourd.
Tout à fait, hein, avec des thématiques très intéressantes.
Et cette légèreté de ramener ça en chant du rossignol.
Voilà, on l'appelle d'ailleurs le rossignol de Düsseldorf.
Ah oui.
Voilà, c'est un petit peu son surnom.
Beau, très beau.
Qui suis-je? Lorsque je suis désespérée, j'écris des poèmes. Quand je suis joyeuse, les poèmes s'écrivent en moi. Qui suis-je quand je n'écris pas? Très petit. Parfois, c'est un arbre qui m'encourage. Parfois, c'est un arbre qui m'encourage à travers la fenêtre. Parfois, c'est un livre qui brille comme une étoile en mon ciel. Parfois, c'est une personne que je ne connais pas et qui reconnaît mes mots. La musique est brisée. Dans de froides nuits, nous vivons avec des taupes et des hérissons dans le ventre de la terre. Dans de brûlantes nuits, nous nous enterrons plus profondément dans le flux sanglant de l'eau. Ici, nous sommes coincés, entre des racines, là, entre des dents de requin. Au ciel, ce n'est pas mieux. Des dissonances désaccordent les orgues de l'air. La musique est brisée. Alors, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une pastorale avec des animaux, mais bon, là, de toute évidence, quelque chose sur le génocide. Et...
Oui. C'est vrai que Paul Celan aussi parlait dans une langue qui était tellement, comment dirais-je, il fallait décrypter tout ça.
Voilà, très, très métaphorique. Voilà,
très métaphorique, qui fait que les Allemands, par exemple, n'ont pas compris cette langue, ou n'ont pas voulu peut-être.
N'ont pas voulu, peut-être c'était un peu tôt, effectivement. Oui. Mais il y a plusieurs poétesses quand même d'identité juive, comme Nelly Sachs ou Gertrud Kolmar, qui ont réussi à se faire entendre.
Oui, qui avait le prix Nobel quand même. Là.
Tout à fait.
Donc, tout à fait. Là, on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas été reconnue.
Voilà.
Oui.
Voilà. J'ai un autre poème, peut-être qui thématise aussi la Shoah de façon, comme ça, avec des petites touches. Émerveillé, quand la table embaume le pain, vin cristal ou bouquet de fraises, pensez à la pièce aux fumées, fumée sans visage, le pyjama rayé du ghetto, pas encore ôté. Nous sommes assis autour de la table parfumée, émerveillés d'être ici. Donc avec la thématique des survivants, qui font peut-être Shabbat avec la perte d'un nombre incalculable de proches ou d'inconnus.
Un
dernier ?
Un dernier.
Sur la thématique du souffle qui est très importante pour
le
elle.
Souffle,
Mon souffle. Dans mes rêves profonds, je vais le lire en alternance avec l'allemand.
D'accord.
Mein Atem, mon souffle. In meinem Tiefträumen, dans mes rêves profonds, weint die Erde Blut, la terre pleure du sang. Sterne lächeln in meinen Augen, des étoiles sourient dans mes yeux. Kommen Menschen mit vielfarbenen Fragen, viennent des gens avec des questions multicolores. Geh zu Sokrates, antworte ich. Allez voir Socrate, leur dis-je. Die Vergangenheit hat mich gedichtet. Le passé a fait de moi un poème. Ich habe die Zukunft geerbt. J'ai hérité de l'avenir. Mein Atem heißt jetzt. Mon souffle se nomme maintenant.
On va revenir à vos
à mes textes. Ok, d'accord. Merci en tout cas d'avoir permis à la voix de Rose s'exprimer dans cette radio.
On avait parlé en 2022, mais on pourra en reparler parce que c'est quand même. Je pense que, et d'ailleurs, tout votre travail arrive à. C'est un travail aussi de mémoire et de figé aussi, un moment qui est un moment culturel, hein, qui peut disparaître, parce que c'est vrai que c'est des poètes importants, s'ils ne sont pas réédités, s'ils ne sont pas à un moment donné lus, ou si on ne parle pas d'eux, ils vont s'enfoncer un peu dans l'oubli. Et c'est notre devoir, je pense aussi, enfin, c'est le devoir des poètes aussi, de pouvoir faire survivre et revivre les voies passées.
Voilà, de créer des passerelles. Alors oui. Là, elle va vraiment être à l'honneur du 9 au 13 mai à Düsseldorf. Il y a un grand, ils appellent ça symposium, un colloque. Donc oui. Helmut Braun, qui est son éditeur, qui était son éditeur, qui est mon ami, organise ça de façon magistrale. Il va y avoir des universitaires du monde entier. Et moi, j'aurai la joie de présenter une communication où je vais faire des passerelles entre mes créatrices, les peintres, sculptrices. Oui. Donc, je vais lire des textes de Rose Auslander sur des tableaux et des sculptures des créatrices sur lesquelles je travaille en thématisant un petit peu tout ça.
D'accord.
Toujours dans l'idée des chiasmes et des hybridations, voilà, de savoir.
Bon, ben nous suivrons ça.
Vous avec plaisir.
Bien et puis, vous reviendrez. Hein.
Avec plaisir. ce sera en ligne, je pense aussi.
Oui. Alors, on donnera les liens tout à l'heure. Hein.
Merci. Quand on connaît Voltaire, on ne peut plus tomber. On m'a dit de me taire, je me suis levée. Quand on connaît Voltaire, on ne peut plus tomber. Quand on meurt, seul à terre, en pays dépeuplé, en songeant à naguère et au vent déployé. On m'a dit de partir, alors j'ai insisté. Tous ces mots à franchir et vers l'aine qui pleurait. Mon cœur gît, en déroute, éternel vagabond, un métèque qui doute, sans logis et sans nom. On m'a dit de l'attendre, alors j'ai patienté. Quand on aime, on est tendre. Othello le sentait. Ophélie sans ses voiles, en apnée des soleils, orpheline ou marquise, je bois l'eau des merveilles, mais demeure insoumise aux apprentis tyrans. Balafré en mon âme, je provoque à tout vent. Bon, je sens que il faut que j'arrête la rime, là. Ça a quelque chose de plus moderne, peut-être.
Non, mais... Il y a des poètes contemporains, je pense à Guillaume Delcourt, j'ai fait une émission il y a peu de temps sur Guillaume Delcourt, qui écrit d'une façon très classique, et c'est extraordinairement contemporain. Il n'y a vraiment rien de suranné dans son écriture, et il respecte les formes classiques. Il n'a pas fait que ça, hein, mais son dernier livre, c'est il y a William Cleese, par exemple, poète belge, qui écrit d'une façon classique, et qui, ces poèmes-là, sont des poèmes qui s'inscrivent dans la contemporanéité la plus parfaite.
C'est vrai.
Oui.
C'est vrai. Quand sur Sainte-Victoire, les cigales s'endorment, dans les lézardes du temps, poussent des herbes folles, graminées de lumière en parfum de soleil. Pierre sèche des ans, en lisière du jour, mur d'enceinte ou bâti façonné d'habitude et soudain, la trouée. Tige gracile et têtue, floconneuse ou herbeuse, et ses hampes fleuries qui semblent symphonie. Dans les lézardes du vent chantent des âmes folles, sœurs malgré les distances et tous les impossibles. Improbable colombe envahie de lilas. Car le monde est multiple et les chemins toujours descendront vers la grève, sans fauvisme à leur trousse, au regard ébloui, quand sur Sainte-Victoire les cigales s'endorment et qu'un grand bonheur soudain vient embraser la mer en longs baisers d'amour aux ocres des amants. Dernier poème autour de la nature, avec un rapport à la peinture. J'avais quelques poèmes extraits du cycle Alma Mater, ça c'était un petit recueil autour de l'écologie et des peuples perdus. Banquise, alma mater. Nuit boréale aux aurores fluorescentes. Longue marche de caribou en quête de lichen vie. Ton sur ton, l'ours blanc guette les creux en glace bientôt purpurine. Iceberg en majesté, amarré en un monde figé. Banquise, Alma Mater, ciselant l'infini. Chant tutélaire des tribus rassemblées. Longtemps, il s'était couché de bonne heure, quand barissait bête des forêts émeraudes. Puis vint le feu. Liberté adoubée aux grottes, bisons et sanguines. Au ventre rond des femmes, l'humanité s'éveille. Chant tutélaire des tribus rassemblées. Après, j'ai un petit texte autour de Haïti. L'île maudite d'Haïti.
Haïti.
Au choléra des temps. Ange aveugle de la cathédrale brisée. Au choléra des temps, l'enfant noirci en tombes éventrées. Maudite, l'île perd mémoire au vaudou qui gémit. Renaissance des pierres, fierté des insalubres. Et toujours l'océan. Ce poème m'avait inspiré parce que Haïti, c'est vraiment une île maudite entre les tremblements de terre.
C'est terrible ce qui se passe.
Les épidémies, la politique qui opprime les...
L'Académie des Chauffereaux de Toulouse compte un poète haïtien.
Oui, tout à fait.
Jean d'Amérique.
Voilà.
Qui a écrit un roman il y a peu de temps qui est absolument magnifique.
Fantastique.
Oui, formidable. Vraiment formidable.
Oui, j'étais très heureuse de le voir promu.
Oui,
vraiment.
Oui.
Et c'est bien qu'il y ait cette ouverture.
Mais c'est vrai que ce pays est un pays. C'est un des pays qui a été le plus tôt décolonisé. En définitive, il ne s'en est jamais remis.
Voilà.
Il est allé de misère en misère et de violence en violence sans discontinuité.
Voilà, incroyable. Oui, c'est vraiment terrible. Et là, j'ai un autre texte qui évoque un autre génocide plus lointain, mais aux conséquences lourdes aussi, au gréement du nouveau monde. Cale oppressée des chaînes englouties, l'enfant mort, tête encore, sa mère devenue folle. Puanteur, silence, la brousse s'est faite océane. Au gréement du nouveau monde, ceux qui cueilleront le coton inventent déjà le blues. Et puis j'avais préparé quelques poèmes extraits du cycle haut, autour du recueil Garonne est une femme amoureuse.
Ah oui.
Voilà. On a le temps encore ?
Oui.
Meuse, je t'ai aimée. Tu as été mon premier fleuve. Naissance nautonnière, en amont des terribles. Place du Cal, balbutier des sourires. Arthur et Carabosse se disputent mon berceau d'ortie et de jonquille. Meuse, je t'ai aimée. Comme on aime une fille mère depuis l'orphelinat. Un jour, bienveillance de Garonne, le Sud m'adoptera sous X. Que je suis née à Reims et j'ai grandi à Charleville pendant 5 ans.
Ah oui.
Donc Rimbaud.
Ah oui, je peux faire.
Et alors, quand on partait en Allemagne, on s'arrêtait parfois à Limoges. Donc ça m'a inspiré le poème suivant qui s'appelle En apnée frontalière. Limoges, nos croissants. Première halte du pèlerinage estival. La 404 de papa et presque la Belgique. Chocolat Côte d'Or en apnée frontalière. Les gouttes se chevauchent sur la vitre embrumée. Frondaison des platanes laisse place aux albâtres des bouleaux. Les briques se font brunes. Ulrich, ma poupée, a pris l'avion. Au réveil, je suis au bled. Mon métissage à moi a la couleur du Rhin. Voilà. J'ai encore un texte autour de l'Allemagne.
Oui.
Entre chevreuil et cendre. L'autre côté de moi sur la rive rhénane. Mes étés ont aussi des couleurs de houblon. Immensité d'un ciel changeant, exotique rhubarbe. Mon Allemagne, le Brunnen du grand parc, pain noir du bonheur. Plus tard, les charniers. Il me tend Exodus et mille étoiles jaunes. L'homme de ma vie fait de moi la diseuse. Lettre du front de l'Est, de mon grand-père, odeur de gazon coupé. Mon Allemagne entre chevreuil et cendre, puisque là, c'est le grand jardin de la magnifique maison de mes grands-parents allemands, et puis en même temps, qui était donc à Duisbourg, un petit paradis vert au cœur de la Ruhr, puisque mon grand-père travaillait avait un poste assez administratif dans une usine. Et donc c'est lui qui m'a fait lire à 15 ans le livre Exodus, bon, j'avais déjà lu Anne Frank, et puis j'ai toutes ces lettres du front de l'Est. Et quelque part, je pense, je dis toujours, il m'a transmis la Shoah.
Le front de l'Est, c'est-à-dire quand même le pire.
Le pire. Je pense qu'il a fait. On n'a pas eu le temps d'en parler vraiment.
Il en est revenu.
L'un est revenu après avoir été prisonnier. Il est revenu plusieurs années après. Il a traversé la Russie, l'Allemagne à pied. Wow. Voilà. Oui. Oui, oui. Et puis avant, je pense qu'il avait fait la Shoah par balle. Hein. Je pense qu'il a fait partie
de malheur.
Des... Malheur. Et donc, il m'a vraiment transmis ce poids.
Oui, oui, oui. Quel héritage.
Quel héritage.
Ah, oui, quel héritage.
Quel héritage. Oui. Et c'est quelqu'un qui ensuite a beaucoup lu des auteurs pacifistes. Il aimait beaucoup Ernst Lichot, très proche de la nature. Et il s'entendait très, très bien avec mon grand-père français qui était résistant. Donc, il l'arrond en foire, tous les deux.
D'accord.
Et mes grands-parents allemands ont acheté une maison dans le village dans lequel mes grands-parents français de Castres avaient une maison de campagne. Et donc, tous ces gens qui avaient été ennemis, voilà, étaient devenus meilleurs amis du monde. On est très fiers d'avoir... Je suis très fière de mes parents d'avoir réussi ça.
Oui, c'est très beau. Cette histoire est très belle.
Tout à fait.
Très belle. Ça veut bien dire que vraiment, l'histoire des dirigeants n'est jamais l'histoire des peuples. C'est ça qui est terrible.
Je pense que c'est
Ça continue.
Ouais. Et ça continue, un espoir peut-être qu'un jour, d'ailleurs on le voit avec le Rwanda, on peut arriver ensuite à faire une paix, c'est compliqué, mais ou avec l'ex-Tchécoslovaquie, mais c'est long, ça prend du temps.
Oui, oui. Enfin, avec l'Allemagne, c'est réussi quand même maintenant.
Je pense qu'on a vraiment, il y a toujours des voix qui s'élèvent, qui sont contre, mais je crois que vraiment les partenariats européens, sont magnifiques. Là, à Toulouse, il va y avoir la quinzaine franco-allemande bientôt. Là, ça a déjà commencé. Donc, c'est vraiment de belles initiatives partout.
Oui.
Et...
oui. On va saluer Nicolas Morvillier.
Tout à fait. Notre cher consul. et notre inspectrice, Madame Bergman. Tous les gens qui s'engagent pour le franco-allemand, l'Institut Goethe.
Oui, l'Institut Goethe, qui est quand même...
Je peux faire une publicité
Oui, bien sûr.
Le 15 avril, je donne une conférence en ligne dans le cadre de la quinzaine franco-allemande autour de Paula Modersohn-Becker et Clara Westhoff-Rilke. Voilà, on peut s'inscrire en me contactant par mail. L'info est sur le site de la quinzaine. Et il y a plein de magnifiques événements, justement, de partenariats culturels, il y a des concerts.
Très bien. Alors, nous mettrons ça également en ligne sur le site de l'émission, lespoètes.site. Voilà, et vous retrouverez donc toutes les références de cette émission également sur lespoètes.site, puisque cette émission sera accessible d'une façon pérenne sur ce site-là dans quelques jours, le temps simplement de faire la légende. Mais mea culpa, j'ai un peu de retard.
C'est pas grave, c'est
tellement... mais nous ferons en sorte que le 15 avril, on mettra ça en page d'accueil, de manière à ce que nous soyons là.
Gentil, est-ce que j'ai le temps de lire un dernier texte?
Oui, on va finir sur un poème.
Alors, un poème autour de Toulouse ou un poème autour de Louise Apollin?
Toulouse. On parlera de Louise Apollin pour une autre émission.
Garonne est une femme amoureuse. Garonne est une femme amoureuse, joyeuse, offerte, passionnée. Elle gémit parfois les soirs de Vendôtan, courtisane tantôt, ou jeune fille aux grands yeux opalines. Sur l'île du Ramier, un héron étonné appelle promeneur. La ligne bleu-lilas des Pyrénées, source et naissance. Un éclat de flamenco brille, mica mémoriel. Un jour viendra des sables et du delta.
Merci, c'est vraiment bien ça, Toulouse. D'abord, le héron, c'est vrai qu'il y a des hérons sur le Garonne, quand très souvent je les regarde. Et puis le flamenco, qui est souvent sur vous, c'est quand même. C'est le corps de l'Espagne.
Ah oui, olé.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Sabine Ostenac, et nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, si vous le voulez bien.
Avec grand plaisir.
Donc vous trouverez toutes les références de cette émission, mais également les références du blog de Sabine Ostenac sur notre site, comme d'habitude, les poètes sans accent. Un point, site lespoètes.site. Ainsi se termine notre émission. Comme moi, nous vous souhaitons une bonne semaine. À distance.